Les 50 premiers jours du Vision Pro, c'est un épisode exceptionnel à 6 voix consacré exclusivement au masque de réalité mixte d'Apple que nous vous proposons aujourd'hui. À quel point le Vision Pro est-il révolutionnaire ou pas? Que vaut l'expérience utilisateur? Est-il trop lourd ou peut-on le porter plusieurs heures d'affilée? Quelles sont les fonctionnalités les plus bluffantes? Des questions auxquelles nous répondrons avec les trois qui parmi nous l'ont déjà testé et l'utilisent même pour certains tous les jours. Et les apps pour le Vision Pro? Les entreprises, les développeurs suivent-ils? Est-ce le début d'un changement réellement majeur dans la manière dont nous envisageons l'informatique moderne et sa présence dans notre vie quotidienne, au travail comme à la maison? Et puis nous allons vous emmener dans les entrailles du masque de réalité mixte d'Apple pour comprendre d'où le Vision Pro tire sa puissance, mais aussi son caractère unique, expliquer ce rendu visuel exceptionnel, cette fluidité qui ne donne ni mal au cœur ni mal à la tête, et entrevoir les pistes d'amélioration, voire de nouvelles révolutions. Et si le Vision Pro n'était que le début d'une très longue histoire, un épisode disponible également dès maintenant en vidéo, exclusivement pour notre communauté sur patreon.com/iWeek, une bonne raison de la rejoindre et de nous soutenir. Bonjour à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, soyez les bienvenus dans iWeek, la semaine Apple, en ce jeudi 21 mars 2024. Il est 17h47 à Paris. iWeek LSA, vous le savez, c'est le podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Cette semaine, on a envie de consacrer tout un épisode au Vision Pro, un peu plus d'un mois et demi après sa sortie aux États-Unis. Alors, à épisode exceptionnel, casting exceptionnel, puisque nous sommes 6 aujourd'hui. C'est pas l'Académie des 9, mais c'est déjà l'Académie des 6. Salut à tous les 5.
Salut.
Salut.
Ah,
salut,
j'adore. Salut. J'adore. Je commence par nos deux invités, et c'est un retour pour eux deux. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau. Je commence par toi, Florent Morin, développeur. Welcome back.
Salut, salut, ça va?
Ouais, ça fait trop plaisir de te retrouver. On était ensemble au mois de juin à l'Apple Park. Hein.
Exactement, exactement. On a vu cet événement exceptionnel, exceptionnel. C'était vraiment super. Et en plus, on était tous les deux, donc c'était encore mieux, quoi.
Absolument, et tu vas pouvoir nous raconter tout ce qui t'est arrivé depuis. Le deuxième guest, si on peut dire, lui aussi, c'est un habitué d'iWeek. C'est Frédéric Crassa, notre expert en processeurs. Salut Frédéric.
Salut Benjamin, salut à toute l'équipe et à nos auditeurs. Je suis ravi de revenir pour parler hardware.
Ah ouais, moi aussi, ravi que tu sois là à nouveau. Bon, le reste de la team, vous la connaissez. Salut Elia Bitbol.
Bonsoir Benjamin, bonsoir la team, bonsoir à tous.
Et oui, cofondateur des Apple Premium Reseller MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Et toujours président des APR en France. Salut Gilles Dounès.
Et salut Benjamin Vincent et bonjour à tout le monde.
Ravi de te retrouver aussi Gilles, toi l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et le co-auteur de l'excellentissime iPod Backstage chez Duno. Et puis j'ai gardé, allez, le meilleur, le plus rare pour la fin. Après plusieurs semaines de folie, il est de retour dans la Team iWeek. C'est toi Baptiste Dajon, salut et welcome back.
Salut, bonjour à toutes et à tous, ravi de revenir après cette période un peu folle.
Ben oui, parce que je rappelle que tu es développeur, hein, toi aussi comme Florent, mais tu es aussi Apple Account Manager et une Technology Evangelist. Ça c'est la version anglaise, hein, que tu m'as mise dans le conducteur chez Decathlon.
Oui. C'est bon, le nouveau rôle récent.
Évangéliste des technologies Apple et aussi, alors Account Manager, ça rajoute quoi du coup?
Donc le Account Manager, maintenant je suis le point de contact unique de Decathlon pour Apple. Donc tout passe par moi et ça permet de centraliser les échanges et d'être plus efficace, quoi.
Bon, écoute, respect, bravo pour cette nouvelle attribution. Je rappelle pour ceux qui ont raté les épisodes précédents que tu as largement contribué au développement de l'appli Decathlon sur le Vision Pro, hein, qui a été lancé le 2 février aux US en même temps que le masque. Il y a quelques jours, Decathlon a présenté une toute nouvelle stratégie, donc Grosse actu, hein, ce qui fait qu'on t'a excusé, évidemment, ces dernières semaines. Tout comme les deux absents du jour à qui on fait une bise, François Le Truédic et Fabrice Neumann. Alors on démarre tout de suite avec le premier de nos trois chapitres sur le Vision Pro. Allez, on va appeler ça notre retour d'expérience, puisque bah, on est au moins trois à l'avoir testé. Je sais pas si Fred Crassa, tu as eu cette chance. Pas encore. Alors c'est bien. On est six, il y en a trois qui ne l'ont pas encore testé, trois qui l'ont testé et même éprouvé pour deux d'entre vous. Moi, j'étais à New York il y a quelques jours et c'est la première fois que j'ai pu le mettre sur ma tête. J'ai réservé une démo à l'Apple Store de la 5e Avenue qui est ouvert 24h/24. Hein. On peut donc prendre rendez-vous pour une démonstration à 3h du matin si on veut, c'est complètement dingue. Et donc, on passe une demi-heure avec le Vision Pro et un spécialiste de l'Apple Store qui va nous expliquer comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Ben, je vais évidemment vous livrer mes impressions, mais quelque part, je suis juste un touriste, moi, du Vision Pro. Si je compare à Baptiste et à Florent, peut-être que je peux commencer par vous, les garçons, puisque vous avez maintenant au moins... 6 semaines de recul. Vous l'aviez déjà essayé avant qu'il sorte, mais on va dire que vous avez sans doute eu l'occasion de le garder sur la tête beaucoup plus depuis le début février. Florent, c'est toi qu'on a le moins entendu sur le sujet depuis la sortie du Vision Pro. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, quel est ton sentiment sur ce masque de réalité mixte d'Apple?
Ah bah écoute, c'est le premier pas vers une grosse révolution des usages. Et vraiment, en fait, la première fois où je l'ai mis, tout de suite, j'ai senti que... J'en ai testé beaucoup, hein. Ça fait des années. J'ai commencé mes premiers prototypes avec un iPhone et Datafix en 2015. Et de fil en aiguille, j'ai testé chaque année. Et j'ai toujours vu des prototypes. Là, j'ai vu un produit. Et un produit en version 1, mais un produit. Et quelque chose de vraiment génial, quoi. Et une expérience de dingue. Et c'est mon ressenti aujourd'hui. Voilà, c'est définitivement... tout est pas sec, hein, mais c'est définitivement très solide.
Ouais, on va revenir, hein, évidemment, sur les points négatifs aussi et les améliorations qu'Apple doit et va sans doute apporter. Juste, Florent, maintenant il y a prescription. Tu l'avais essayé avant le lancement?
J'ai fait les labs. Hein.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
J'ai fait les labs et... Après, on sait tous que dans les labs, certains ont accès au matériel. C'est tout ce que je peux dire.
Bien sûr. bon, rappelle que vous avez essayé les contrats dans tous les sens, hein, pour pas trop divulguer de secrets.
C'est un peu le Fight Club.
Oui, bien sûr. Baptiste, alors toi, tu l'as même à côté de toi, le Vision Pro. Hein. Tu nous montrais juste avant qu'on démarre. Là, avec le recul, c'est 6 semaines. Est-ce que ta perception du produit, du concept, de ce qu'il permet de faire, a commencé à évoluer?
Alors, donc moi, j'ai pu l'essayer la première fois dans les labs, hein, comme Florent. Et depuis, quelques jours après la sortie, j'ai quelqu'un de Decathlon USA qui a pu aller me le chercher aux US. Donc, j'en ai un depuis, mi-février. Moi, il est rentré totalement dans mon workflow de travail, déjà. Parce que chez Decathlon, on travaille en flex desk, donc on n'a pas toujours un écran externe ou un bureau à soi. Donc là, le but, c'est avec un Vision Pro, on a un écran externe 4K immense partout où on va. Donc déjà, je peux travailler quasiment toute la journée dedans. Donc c'est rentré vraiment dans mon process de travail. Et après, pour les usages d'entertainment, Disney+, franchement, les films en IMAX 3D, les Avengers et tout ce qui est Marvel, il y a beaucoup de films comme ça, c'est très impressionnant. Le contenu Apple TV+, immersive, pareil. Donc moi, mon ressenti, c'est que ça va bouleverser beaucoup bah, de workflow, de l'entertainment pour le moment. On n'a pas vu beaucoup de monde attendre une killer app. Moi, j'en ai vu plusieurs, mais justement dans des secteurs très définis.
Ouais.
Et je pense que Vision OS, c'est vraiment le produit qu'Apple a voulu sortir. Pas forcément le hardware en tant que tel, parce qu'il va évoluer dans les années qui arrivent. Mais le vrai produit qui est sorti, c'est Vision OS, pour pouvoir permettre à nous, développeurs, de se l'approprier, de d'inventer des nouveaux usages, comme disait Florent. Et que quand le hardware atteint le but de ce que veut Apple, bah, tout soit disponible et qu'on ait une expérience justement grand public très satisfaisante.
Ouais. Alors, j'ai envie de proposer à ceux parmi nous six qui n'ont pas encore eu la chance d'essayer le Vision Pro, peut-être de poser des questions à ceux qui l'ont essayé. Ellie, Gilles, Fred, on est trois à l'avoir testé plus ou moins. Qu'est-ce que vous vous posez comme question C'est quoi les premières questions que vous vous posez avant de pouvoir l'essayer?
Les développeurs, les gens qui l'ont mis au point au niveau hardware et software et design insistent sur la façon progressive de rentrer dans le bain. C'est l'expression qui me vient, pour pas prendre directement de façon agressive le changement de d'environnement et la puissance de représentation du nouvel environnement que peut représenter le Vision Pro. Est-ce que c'est quelque chose qui est perceptible? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? Est-ce que c'est comme rentrer dans un bain trop chaud, par exemple, où on est un peu chaud, où on va se glisser doucement dans un truc vraiment agréable? Ou est-ce que, bof, c'est une expérience comme une autre?
Alors, Florent, je voyais Florent acquiescer. Explique-nous, Florent, qu'est-ce que tu peux
en
répondre
fait...
à Gilles?
En fait, c'est certainement ce qui m'a le plus surpris dans l'expérience Vision OS. C'est qu'au moment où tu mets l'appareil, tu le découvres et tu sais déjà l'utiliser. Donc déjà, t'es chez toi, toi. Il y a quelque chose de familier. Et ça, c'est hyper agréable. Et tous ceux à qui j'ai fait tester, qui sont déjà dans l'écosystème Apple, ont vraiment apprécié ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expérience est conçue pour aller à différents niveaux. T'as un usage basique avec, on va dire, les automatismes que t'as sur iPadOS, iOS, etc., qui fonctionne bien, et t'as des expériences un peu exclusives que tu vas découvrir au fil de l'eau, comme par exemple quand tu veux créer une fenêtre à partir d'une photo ou d'un document, tu vas pouvoir pincer et placer la fenêtre où tu veux autour de toi. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas obligatoire, mais que tu découvres, c'est un peu comme une bonne surprise, et après tu fais que ça parce que ça te permet d'améliorer ton usage au quotidien. Et je trouve que c'est hyper ingénieux. Il y a vraiment eu un travail pour pouvoir y aller en douceur.
Ouais. Baptiste, est-ce que tu as eu le sentiment du bain chaud, du bain trop chaud, en le mettant pour la première fois, ou est-ce que c'était tout doux?
C'était très doux. En tant qu'expert de l'environnement Apple, ou même utilisateur grand public de l'environnement Apple, tu retrouves très vite tes petits, tes habitudes, etc. Après, comme disait Florent, c'est vraiment les nouvelles expériences qui sont permises par Vision OS qui vont prendre du temps à s'habituer et trouver même des petits détails comme le glisser-déposer exactement, mais dans l'espace, qui sont des tout nouveaux usages. Mais franchement, j'ai fait essayer à plus de 150 personnes chez Decathlon. On voit tout de suite déjà les personnes qui sont dans l'écosystème Apple ou pas. Et ceux qui ont l'habitude de la VR ou de l'AR, etc., ils retrouvent aussi leurs petits. Voilà, c'est progressif. Et pour certaines personnes, ils n'y arrivent pas du tout, mais ce n'est pas les technophiles.
Ce que vous décrivez me fait penser à ce que moi j'ai ressenti il y a plus de 20 ans quand je suis passé de macOS 9 à macOS 10, avec à la fois quelque chose de la familiarité et la sensation de pouvoir découvrir d'autres trucs, comme si on était des chaussures de montagne neuves, par exemple. qui permettent de faire d'autres, on est mieux dedans et permettent de faire d'autres trucs.
Alors, ça semble loin, mais c'était effectivement le passage de l'ancienne génération du système des Mac finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui hein, dans sa dernière version. C'était l'interface à quoi ? C'était à la fois pareil et complètement différent.
Le sentiment est un peu le même.
Ouais.
Ouais, j'aurais une question pour le côté développeur. On voit que l'interface iOS, elle est différente quand même d'iPadOS, même s'il y en a qui disent c'est l'iPad, je suis vraiment pas d'accord. On trouve une très grande maturité en fait, beaucoup plus que ce qu'on avait vu sur l'iPhone quand c'est arrivé et sur l'iPad où il y a eu quand même pas mal de changements. Je trouve que on a l'impression que c'est vraiment beaucoup plus mature. Il faut dire que ils ont plus d'expérience aussi sur ça. Et je voulais savoir en tant que développeur, est-ce que le SDK, les API sont du même niveau ? J'ai l'impression que c'est très très mature aussi pour les développeurs, dans le sens où il y aura peut-être moins de modifications des API qu'on a pu l'avoir dans le passé. Plus de stabilité. Est-ce que Florent, toi, tu as pu tester, regarder en détail un petit peu les API, comment elles ont été conçues ? Parce que tu as l'habitude, je suppose, de cette maturité des API, plus ou moins, tu sais, plus ou moins en bêta.
Ouais. Bah pour le coup, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quand même... Pour une bêta, je trouvais ça quand même très stable. Après, on reste sur une bêta et en version 1, donc il faut aussi être un peu sympa, on va dire, parce que les API ils sont plus très riches, parce que en fait, Apple est un peu obligé d'arriver avec tout le patrimoine de 15 ans de iOS qui doit être adapté. Donc là, on va dire qu'on a une certaine tolérance et malgré tout, on réussit à faire tout ce qu'on veut. Dans les grandes lignes, moi j'ai eu quelques difficultés sur certaines technologies qui n'étaient pas hyper sèches, mais j'ai toujours eu une alternative. Par exemple, sur certains composants qui n'étaient pas au top sur SwiftUI, derrière j'avais la possibilité de faire le relais avec UIKit ou des technologies plus bas niveau. Et ça, du coup, en fait, tu te retrouves pas bloqué, c'est plutôt bien. Sur la vidéo, c'est pareil. Pour l'anecdote, j'avais besoin de faire des vidéos en 3D, il n'y avait pas d'encodeur qui existait, donc j'en ai créé un. C'est celui que j'ai commercialisé il y a peu de temps. Pour faire la pub, ça s'appelle MV Converter, qui fait du MV HEVC en format vidéo. Et c'est plein de choses comme ça qui sont créées au fil de l'eau. Donc on a vraiment eu l'impression de participer en même temps qu'Apple à cette construction d'un écosystème. Et c'est vrai qu'au final, c'est hyper intéressant. On a eu quand même une bonne écoute sur les feedbacks globalement. Moi, j'ai posé quelques dizaines de feedbacks. J'en ai une bonne partie qui a été traitée et d'autres sur lesquelles j'ai eu un accompagnement. Et voilà, je suis plutôt... satisfait. Après Baptiste, je sais pas, t'as peut-être eu une expérience différente ou
pas du tout. Pour les usages dont j'ai eu besoin pour Decathlon, tout était très sec. Ça manquait un peu de documentation quand on s'attaque au monde de la 3D et qu'on vient du pur iOS, iPadOS, etc., du ce qui existait jusqu'à maintenant. Moi, j'avais pas eu l'occasion de faire beaucoup de ARKit ou de RealityKit avant cette expérience VisionOS. Donc, du coup, c'est un peu cette documentation et les nouveaux outils comme Reality Composer, etc., qui n'étaient pas vraiment très documentés. Même pendant les labs, on a posé des questions et on n'avait pas forcément de réponse. Mais ça va venir. C'est, comme on dit, c'est une bêta, c'est une version 1. Ça va venir.
Ellie, est-ce que tu as une question à nous poser ?
Non, parce que je ne l'ai pas testé, mais j'ai une remarque. Je reviens de quelques semaines presque de cure de désintoxication de Vision Pro. Et là, en vous écoutant, vous me donnez envie de l'acheter à nouveau. Je m'étais convaincu, j'allais porter mon badge de 45 jours sans avoir envie de l'acheter. Et puis zut.
Bon, en tout cas, moi, je peux vous donner ma petite expérience de client qui a pas suivi le parcours des développeurs, justement. Moi, j'ai fait vraiment comme l'Américain moyen qui prend rendez-vous pour aller faire une démo de Vision Pro dans un Apple Store américain. Donc, ça dure effectivement une demi-heure. Je suis arrivé avec ma paire de lunettes, donc des verres progressifs, hein, puisque malheureusement c'est comme ça que ça s'appelle. Dans l'Apple Store de la 5e Avenue à New York, qui est donc en sous-sol, qui est immense, il y avait toute la partie droite qui était réservée aux démos du Vision Pro. De mémoire, il y avait 12 emplacements avec 12 casques, 12 masques et 12 démonstrateurs qui étaient là. Donc Bon, on m'a demandé ma paire de lunettes. Donc, chaque poste a un appareil qui, en quelques secondes, va analyser le verre et la correction. Le temps que le QR code soit scanné par le démonstrateur, que les infos partent en arrière-boutique, que la personne qui s'occupe de faire le montage des Vision Pro avec les bonnes mesures de tête qu'on a réalisées avec un iPhone en quelques secondes, le temps que tout ça se fasse, ça prend peut-être 3-4 minutes. Et puis le Vision Pro est amené à côté de nous et là, la démonstration commence. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment... très marquant, c'est qu'elle est construite de manière hyper progressive, c'est-à-dire que de la même manière qu'on va garder le comment on appelle ça, le cliffhanger du film ou l'annonce pour 9h41, voilà, c'est pareil, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, en fait, on ne fait que découvrir des fonctions qui sont de plus en plus immersives, de plus en plus bluffante, pour terminer par un peu le clou du spectacle. Donc c'est vrai que la prise en main elle est hyper simple. Moi j'ai eu un petit peu de mal, mais je pense que ça vient avec l'habitude, à localiser la Digital Crown, donc la couronne qui est en haut à droite sur le casque, sur laquelle on doit notamment appuyer pour faire réapparaître l'écran avec les apps. À chaque fois qu'il fallait appuyer dessus, je mettais 10 secondes à le trouver. Voilà, Baptiste nous montre sur son Vision Pro. Voilà, la couronne digitale, elle est sur le haut à droite du casque. Et donc, il faut appuyer sur la couronne digitale pour faire réapparaître les apps. Donc, la démo, elle a commencé par la manipulation de l'interface, la gestuelle, regarder sur un élément pour le viser, et puis après on valide en rapprochant le pouce et l'index, les gestuels pour zoomer, pour agrandir une fenêtre, pour la déplacer dans l'espace qui n'est pas tellement virtuel en fait, parce qu'il est très réel, hein, mais l'espace autour de soi. D'ailleurs, ça a été un des moments marrants, c'est que quand le Vision Pro démarre et qu'on le paramètre, on est sur un fond noir qui est complètement opaque, donc on voit pas à travers, hein. Donc on a une série de points à viser avec les yeux et on valide sur chacun des points. Voilà, ça ressemble un petit peu au process de Face ID d'une certaine manière, sauf que là c'est les yeux qui bougent et pas la tête. Et puis une fois que tout ça est fait, on m'a invité à faire tourner la couronne digitale et cette rotation elle fait la transition entre l'écran complètement opaque et l'écran qui projette l'image qui est devant soi. Et donc en tournant la couronne digitale, en quelques instants, j'ai vu apparaître l'Apple Store où je me trouvais, le démonstrateur qui était devant moi, et alors que j'avais le Vision Pro sur les yeux, je voyais comme si j'avais pas le Vision Pro sur les yeux. Donc là, ça devient vraiment intéressant, parce que là, on va commencer à faire apparaître l'interface par-dessus le monde réel, à coller des fenêtres un peu partout, du Safari, l'appli photo, etc. Et puis, on va entrer dans les photos. Alors les photos, c'est déjà très spectaculaire, parce que voilà, on a l'impression d'être devant un poster qui fait 15 mètres de diagonale. On va commencer à regarder de la vidéo, donc un petit bout d'avatar en 3D, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis on va commencer à s'intéresser aux photos spatiales et puis aux vidéos spatiales. Et là, c'est vrai que c'est très 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 bluffant. Vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, Baptiste et Florent. Pour finir par... En fait, c'est plus un trailer, parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu encore disponible, sauf si les infos de l'Apple Store n'étaient pas à jour. Mais ce qu'Apple appelle Apple Immersive, où là, c'est des contenus qui sont vraiment filmés pour le Vision Pro. Donc, on se retrouve dans des situations très particulières. On est devant une funambule sur une corde au milieu du Grand Canyon ou équivalent, on est sous l'eau avec les requins, on est On est... Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple, les garçons? Je ne me souviens plus.
Il y a les dinosaures, il y a les dinosaures, ah, les dinosaures.
Les dinosaures. Et ça se terminait, dans mon cas à moi, par cette image où on est au bord d'un lac avec un ours à 50 cm de nous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ah oui, il y avait du sport aussi, il y avait la NBA, il y avait du basket, il y avait du foot. Ellie, un match de foot en immersif. Ça va devenir difficile de résister. Voilà. Donc, c'est vrai que plus le temps passe, plus les minutes passent pendant la démo, plus ça devient quelque part englobant, je trouve. Plus on. Voilà, c'est pas qu'on se perd, c'est qu'on est vraiment, immergé, on est vraiment entouré par l'univers que le masque nous propose. Et pour avoir essayé aussi des masques de VR avant, type Oculus, etc., j'avais ce sentiment d'immersion, mais dans des univers virtuels. Donc il y avait un côté très factice. Là, c'est vrai que quand on active ce qu'Apple appelle les expériences, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment des environnements presque de méditation dans lesquels on peut se reposer. Je me suis retrouvé à nouveau au bord d'un lac. Alors c'était pas le lac de l'ours, c'était un autre lac. Fin de journée, un peu début de tombée de nuit, très très calme, avec un paysage de montagne, avec beaucoup d'arbres, des sapins, le son du vent dans les feuilles, etc. C'est vrai que pour se faire 10 minutes de redescente après une journée intense au boulot, c'est génial, quoi. C'est génial. Où on imagine des gens qui ont peur en avion, par exemple. Je me dis, ils se mettent un Vision Pro et s'immergent dans l'environnement proposé par le masque. Ce type d'environnement, c'est assez génial. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment que le rendu était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc sur le rendu, sur ce qui se passe dans le masque, je suis sans nuance. C'est exceptionnel, c'est révolutionnaire. Maintenant, là où j'ai un problème, c'est que pour moi, le masque, il est pesant, il est trop gros. Et je sais que c'est un miracle d'ingénierie, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est une première version. Et j'ai hâte d'être à la V2 ou à la V3. Mais pour moi, voilà. Pour moi, c'est tel qu'il est, c'est trop lourd, trop gros, trop pesant. La première question que m'a posée le démonstrateur, c'est est-ce que ça appuie pas trop sur les joues ? Parce qu'en fait, on l'a, et puis ça, tout de suite, ça pèse ici, quoi. Ça pèse, il repose ici.
Tu l'as essayé avec quel strap ?
Est-ce que j'allais te poser comme question ?
Quelle taille de strap, tu veux dire ?
Non, celle qui est comme ça en accordéon ?
Ouais.
Ok, parce qu'il y a la double loop strap aussi.
Fais voir.
Comme ça.
Non, je l'avais pas celle-là. C'était vraiment la version
qui
basique,
permet de distribuer mieux le poids et du coup t'as beaucoup moins cette sensation.
Ouais, c'est vrai. Dans la version de base, je trouvais qu'il pesait quand même beaucoup là et au bout d'une demi-heure, je vais pas dire que j'étais content de l'enlever, mais mais j'étais mieux sans quand même. Voilà, donc je trouve l'expérience extraordinaire. C'est impossible de décrire ce qu'on vit à l'intérieur. Le seul moyen, c'est de l'essayer. Hein ? Je pense que Baptiste a dû essayer de décrire ça 150 000 fois.
Pendant mes démos, souvent, c'est ce que je commence par une démo avec moi qui diffuse mon écran sur le Mac. Et branché sur une énorme télé, et je montre comment ça se manipule, etc. Comme ça simplifie les démos par la suite. Et à chaque fois, les gens sont pas impressionnés par la version plate sur télé. Et par contre, dès qu'ils l'enfilent, là, j'ai des enfants devant moi qui découvrent un nouveau monde, des nouvelles capacités, manipuler des trucs en 3D, qu'on a vraiment l'impression que les objets sont devant nous, on peut explorer la tente Quechua comme on le veut, etc. Et ça, c'est vraiment... ça passe du tout. Des gens très sceptiques, Même, j'ai eu l'occasion de faire essayer à certains coureurs de Decathlon AG2R mondial, là, avec, du coup des sportifs de haut niveau, et ils n'étaient pas du tout impressionnés par la version 2D sur télé. C'était, oui, bon d'accord, encore un énième casque, et après ils l'ont enfilé. Et au bout de 15-20 minutes, c'était « Ok, I'm gonna buy one », parce que voilà.
Ah oui. Florent, Baptiste, pour vous, les trois révolutions et les trois points à améliorer, voire à changer, ce serait quoi ?
Alors, en termes de révolution, clairement, les capacités vidéo. Et je vais faire un double. Il y a le point d'amélioration et... en fait, déjà en termes de vidéo actuelle, on va dire Tubi le reste directement, hein, tout ce qui est méta et tout, Tubi. Par contre, tu sens qu'il y a une capacité d'évolution et je sais plus qui, je sais plus si c'est Sony ou Canon qui avait fait une estimation comme quoi en fait il faudrait dans l'idéal une double caméra 180 avec une définition de 100 millions de pixels en 90 images secondes, ce que c'est encaisser l'appareil en termes de vidéo, mais il y a aucune caméra au monde qui est capable de le faire. C'est un peu, mais encore une fois, on est en train de construire un écosystème, donc il y a ce côté où c'est génial parce que vraiment c'est le top de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et là, il y a un point d'amélioration pour pouvoir enregistrer en bonne qualité. Donc ça, c'est les deux premiers points. Après les autres points, la question est un peu difficile. Comme tu dis, le poids, peut-être pas le temps le poids, mais le confort de l'appareil pour un peu monsieur tout le monde, parce qu'il y a vraiment des cas particuliers. Là, il y a probablement des choses à faire. Ça reste, on a vraiment l'impression d'être dans du gros matos. Après, si on voulait rester là-dessus, je sais pas, c'est difficile hein, de faire des reproches à cet appareil. par contre, ce qui est génial, c'est vraiment la qualité de lecture, la qualité de l'écran est vraiment bien parce que du coup, tu fatigues pas. Tu peux l'utiliser des heures et des heures, il n'y a pas de problème en termes de confort visuel.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est assez géant. Après, c'est aussi un défaut parce que c'est tellement confortable, tu t'habitues tellement à la voir qu'au quotidien, après, il y a un truc que t'as tendance à faire, c'est que t'as tendance à pincer comme ça. Tu dis, ben non, je l'ai plus. Ça sert à rien que je pince avec mes doigts, je l'ai plus. Ça crée une trop forte dépendance. Et
t'as raison.
Et voilà, non, après... après, c'est...
Baptiste...
Non, globalement, ouais. C'est assez génial et voilà. Non, c'est tout.
Ouais. Baptiste, tes trois points vraiment d'émerveillement et peut-être les trois critiques ou les trois améliorations prioritaires à apporter.
Alors, ce que je garderai, bien sûr, VisionOS, qui est un OS très abouti pour moi en termes de ressenti, de changement d'expérience, tout en restant la même chose, comme on le disait tout à l'heure.
Ouais.
Ce qui fait qu'on a réussi à transposer avec succès les expériences qu'on avait dans un petit carré de verre dans un univers spatial. Et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant. Donc ça, je garderai. Et ça regroupe beaucoup de choses. Les nouveaux usages vont se développer, donc ça sera à déterminer. Mais je pense que c'est ce qui m'excite un petit peu dans l'arrivée de cette nouvelle plateforme. C'est je suis de retour en 2008 et le playground il est énorme et je sais pas ce que je vais faire plus tard. Donc voilà, c'est l'excitation autour de cette nouvelle plateforme. Moi, j'aurais mis une batterie tampon dans le casque qui permettrait de hard changer hot swap les batteries parce que souvent on n'a pas le choix d'être loin d'une prise ou autre.
Oui.
Et du coup, là, le fait que retirer la batterie coupe totalement le Vision Pro, j'aurais au moins mis une petite, même une batterie d'Apple Watch dans un coin. Je sais pas où est-ce qu'il aurait mis, mais voilà,
une
un
minute,
truc qui
quoi.
Puis, voilà, juste le temps de faire la manip qui est vraiment pas longue de changement de batterie. Après, certes, le hardware, je pense que c'est pas du tout la cible de ce qu'Apple voulait, donc le hardware va évoluer. C'est parce que j'ai vu beaucoup de vidéos en ligne où ça critique beaucoup le hardware, beaucoup, c'est lourd, mais c'est une V1, c'est ce qu'Apple a voulu nous donner maintenant pour nous donner VisionOS dès maintenant. Et ça va faire que évoluer, et je pense que voilà. le hardware, on peut y reprocher beaucoup de choses, même s'il est déjà à la pointe de la technologie de ce qu'on peut faire maintenant à ce prix.
Ouais. Élie,
moi, j'avais une question. Ouais, j'avais une question tout à l'heure. Effectivement, on a parlé de... il n'y a pas encore de killer app, enfin, en dehors de la vidéo qui est pour l'instant ce qu'Apple met en avant. Et pourtant, j'ai vu, mais je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas si c'est des bêtas ou, si, ou je ne sais pas comment ils font, j'ai vu au moins 3 reportages sur l'utilisation du Vision Pro dans la médecine. Ils parlent d'opérations particulièrement délicates qu'on peut faire avec un Vision Pro et c'est révolutionnaire. Alors, la médecine me semble effectivement un domaine où on va pouvoir s'éclater avec, mais comment ils font? Est-ce qu'il y a déjà des apps que vous connaissez ou est-ce que c'est juste les capacités actuelles et comment ils peuvent les utiliser dans ce cas-là?
À ma connaissance, c'est des prototypes aujourd'hui.
D'accord.
Ouais. À ma connaissance, c'est des prototypes
utilisés en milieu hospitalier. Parce que
c'est sûr
j'ai vu un reportage
cas, moi,
sur une opération qui a été faite avec un Vision Pro, une opération, je crois, de la colonne vertébrale qui a été faite avec un Vision Pro et le chirurgien qui l'a fait a dit que c'était révolutionnaire. Donc,
bon. Oui, mais c'était pour l'infirmière instrumentiste qui permettait à une infirmière non expérimentée de savoir exactement quels instruments elle avait devant elle sur le plateau et pouvoir passer les instruments que demandait le chirurgien sans se tromper. Et donc, c'était beaucoup moins de stress pour tout le monde et beaucoup plus de rapidité. Mais il y a une étude de Sortlist là, chez les entreprises françaises qui il en ressort que les entreprises qui prévoient d'investir ou qui ont déjà investi sont 64% des entreprises françaises qui prévoient de créer ou qui ont déjà créé des applications, qui sont déjà en train de travailler dessus avec un budget entre 10 000 et 30 000 euros. C'est le marketing, la mode et la santé pour souvent des démonstrations et c'est ce que Baptiste décrivait pour les sportifs qui avaient une expérience un petit peu hors du commun et qui disaient je vais en acheter. C'est ce que tu décrivais pour par exemple, l'exploration de la tente Quechua, quoi.
À votre avis, est-ce qu'on se dirige vers un succès du type de l'Apple Watch avec un démarrage assez lent, mais qui au fil des années va devenir une sorte de raz-de-marée, ou est-ce que Apple peut encore se planter avec l'écosystème Vision Pro, Vision OS?
Là-dessus, ce qui est assez clair, en fait, c'est que il y avait une vraie attente. Parce que pour revenir un peu ce que tu disais par rapport aux usages pro, moi, dès le jour, en fait, on était encore à l'Apple Park, je recevais des messages de clients qui me disaient, OK, faut qu'on bosse là-dessus. En mode, entreprise.
Ouais.
Et je dirais que là, j'ai dû faire en tout, je sais pas, j'arrête pas de monter des prototypes. Je dois être, si ça se trouve, je suis déjà une dizaine. Et en fait, les 80% c'est pour de l'usage interne de type entreprise. Et beaucoup, tu vois, c'est pour des tableaux de bord ou des choses comme ça. Où en fait, le Vision Pro te permet de t'affranchir de ton écran. Et il y a un besoin, mais de dingue dans ce domaine. C'est incroyable. Avec tout ce qui est, c'est en fait aussi lié à la révolution de l'intelligence artificielle où t'as besoin de voir une multitude de data analysées, etc. pour, notamment pour les data scientists et tout ça. Et là, en fait, Vision Pro te permet ça d'organiser ta donnée et en plus, c'est une expérience personnalisée qui, en plus, peut être partagée parce que Apple l'a pas tellement mis en avant, mais on dispose quand même de la technologie SharePlay qui permet de, qui est pas utilisé que pour la vidéo et qui peut être aussi utilisé pour n'importe quel usage. Et donc, tu peux intervenir à plusieurs sur un écran à distance, à des kilomètres de distance, ça consomme pas de bande passante, c'est chiffré de bout en bout. Technologiquement, c'est gratuit parce que c'est intégré au logiciel d'Apple et ça marche du tonnerre. Et donc, en fait, t'as une expérience qui est ultra personnalisée du fait du Vision Pro, mais qui est malgré tout partagée. Et c'est quand même assez exceptionnel au final. Et en entreprise, ça fait jackpot, quoi.
Donc toi, tu paries sur un succès, en tout cas déjà dans le monde de l'entreprise. Mais est-ce que ça suffit pour faire un succès pour Apple ? Parce qu'Apple compte en millions, en dizaines de millions d'exemplaires.
Après, il y a tout ce qui est vidéo. Hein, le nombre de... Apple réinvente le cinéma, il n'y a pas d'autre mot. On passe au parlant, quoi.
Ouais. Baptiste, toi, ton sentiment sur le moyen long terme.
Alors, sur le moyen long terme, moi, je pense que Florent a raison. En entreprise, ils vont pas réfléchir. Ça va créer plein de nouveaux usages, de s'affranchir de matériel, de s'affranchir de postes de travail plutôt conséquents, etc. Et ça, l'usage entreprise, Apple a déjà gagné parce qu'ils sont déjà bien installés dans ces écosystèmes-là. Et ce nouveau device va permettre d'encore agrandir leur potentiel en entreprise. Donc ça, c'est à cause aussi du prix actuel du Vision Pro. Les entreprises vont être les premiers clients, les développeurs aussi. Ce qui va permettre de déjà développer les usages chez les utilisateurs en entreprise, donc qui auront déjà l'expérience de ce nouvel appareil, ce nouvel environnement. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'on n'est pas à la cible de ce qu'Apple veut livrer en termes de hardware, l'évolution de hardware fera l'adoption du grand public, comme l'iPhone l'a été au début, dans une moindre valeur marchande au début, mais ça a vraiment explosé à partir de l'iPhone 4, 4S, et il est devenu plus accessible. Donc là, je pense que Apple, c'est vision entreprise, vision entertainment et vision développeur qui permettra d'avoir ce nombre d'applications souhaitées par Apple à la sortie grand public et à sa distribution vraiment grand public. Mais je parie déjà sur un succès parce que Apple a donné un coup de pied dans la fourmilière de ce qui était possible dans l'ordinateur spatial, dans la VR, dans l'AR, qui était un peu chasse gardée de certains acteurs jusqu'à maintenant. Et là, le grand public en entend parler, les usages vont évoluer. Et du coup, même si Apple ne sera pas forcément numéro un en termes de volume, en termes d'expérience et de satisfaction, ils seront toujours numéro un.
Fred, tu voulais intervenir sur la question du succès ou de l'échec potentiel ?
Oui, parce que je travaille pour un opérateur qui a proposé pendant 2 ans en exclusivité l'iPhone à l'époque. Il n'était pas cher. Hein. Oui. Il était à 399. Ce qui était cher, c'était l'abonnement parce qu'on n'avait pas une échelle de valeur. Mais les abonnements data étaient à peu près à 60 euros. Ça existait. Et ce que je veux dire, c'est que l'iPhone n'était pas aussi abouti, et je suis d'accord avec vous, que ce produit. Néanmoins, il était abordable. C'était quand même un produit grand public. Il y avait un problème de valeur. Mais j'ai fait le comparatif. C'était moins d'un tiers du SMIC à l'époque, vous voyez. Donc, si je prends le SMIC actuellement à 1500, on est à 3 fois le SMIC. Donc, en termes de pouvoir d'achat, le Vision Pro n'est pas un produit grand public. D'accord, c'est comme si vous disiez les télés actuelles à 4000 euros. On va dire que les prix des télés très haut de gamme sont à 4000, 5000 euros. C'était des télés qui se vendaient à l'appel. Non, c'est des télés, il y a toujours le grand public, mais premium. Je pense qu'Apple a eu raison de le faire. Ils n'ont pas respecté la règle de Tim Cook, qui a été encore répétée à multiples reprises, qui est on ne communique pas sur les projets à venir. Alors ça, c'est vrai et c'est faux à la fois. Ils l'ont fait d'ailleurs pour Apple Silicon, puisqu'ils ont déclaré Apple Silicon avant de sortir le Mac M1, vous rappelez, le MacBook M1 est sorti bien plus tard. Ils ont sorti un prototype, ils ont fait pareil pour l'Apple Vision. Ils ont communiqué 8 mois avant sa sortie sur Apple Vision Pro. Et pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'il faut... du temps à la communauté pour s'y préparer et ils ont bien fait, je pense qu'ils ont très bien fait de le faire, même s'il y en a qui le critiquent parce qu'il n'est pas abordable pour le grand public. C'est un produit qu'il fallait vraiment mettre sur le marché pour avoir les fameux retours dont Laurent parlait et qui sont importants pour eux pour rectifier très très vite la chose. Donc c'est ce prix-là, on va dire 4 000 euros en France ou 4 200. C'est un prix qui est quand même pour les entreprises, les early adopters. Je ne pense pas qu'Apple, eux, c'est dans le temps, se disent il faut que ça soit absolument un succès, qu'on en vende des camions et des camions pour, je ne sais pas d'ailleurs s'ils peuvent le produire, pour que ça soit un succès. Je pense que le succès viendra des éditeurs, des applications qui vont sortir, de l'adoption dans les entreprises, du ressenti du grand public aussi, hein, sur ce qui va arriver. Et donc, il faut faire attention. C'est juste le petit truc. L'iPhone était pas tout à fait dans cette cible grand public. Il était grand public, l'iPhone, même si ça pouvait paraître cher. Voilà.
Oui, c'est vrai. Gilles, ton sentiment?
Pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est un peu ce qu'on a dit avec Ellie dès le départ, c'est l'équivalent du Lisa pour le Macintosh, qui est d'abord sorti pour les entreprises, qui a servi un peu de prototype, de bande d'essai, de tout ce qu'on voudra. Et le modèle grand, vraiment pour le grand public, avec un prix qui sera pas donné, mais qui sera davantage abordable. Pour reprendre l'échelle de Frédéric, de SMIC, le Macintosh, c'était 3 SMIC à l'époque. C'était une demi-petite citadine. Le prix d'une demi-R5 quand il est sorti. Donc, la moitié du prix d'une R5, pour être plus précis. Et donc, on a ce banc d'essai. Les premiers programmes, je me souviens, même si c'était pas... s'il a été possible, comme Ellie, de faire des programmes sur des Macintosh qui étaient donnés au compte-gouttes, comme dans les labs pour le Vision Pro, les premiers programmes ont été faits aussi sur Lisa.
Je sais pas si les Vision Pro étaient donnés dans les labs.
Non, je crois
ils
pas.
Étaient, non, ils n'étaient pas donnés ou prêtés, mais ils étaient, on y avait accès pour valider les programmes qui étaient faits en simulateur. Ouais.
Ouais. Bon, Élie,
en fait, l'analogie
sentiment...
est bonne, effectivement.
Ouais.
Parce que ce que vient de dire Gilles, c'est que la technologie du Macintosh, on l'a découverte dans le Lisa. Moi, j'en ai parlé. Ce qui m'a impressionné, c'était le Lisa. Le Macintosh, c'était un produit que je savais utiliser parce que j'avais un Lisa et qui était abordable pour un plus grand public, puisqu'il était à 80 000 euros par rapport à 24 000. Donc, on est un peu dans ces échelles. Le jour où il y aura un Vision Pro à 1 000 euros, peut-être des lunettes à moins, là, ça sera autre chose. Pour l'instant, à 4 000 euros... je suis sûr que la plupart de nos auditeurs rêveraient d'en avoir un, mais est-ce que tout le monde peut l'avoir?
Non.
Non.
Certainement pas. Bon, avant de passer à la suite de notre spécial, un petit rappel, iWeek Express, c'est notre nouveau podcast en mode breaking news. C'est le tout premier podcast indépendant d'informations sur l'écosystème Apple à l'apparition imprévisible, parce qu'elle est déclenchée par l'actualité. En fait, dès qu'une information... nous parvient. Info d'importance, évidemment, on enregistre et on diffuse un nouveau numéro avec deux priorités, du recul même à chaud et puis la plus grande réactivité possible. Alors abonnez-vous, hein, plus que pour tout autre podcast, parce que iWeek Express, c'est imprévisible, c'est sur toutes les plateformes et c'est toujours gratuit. Alors on passe à la deuxième partie de notre spécial Vision Pro. On va parler des apps et de votre point de vue de développeur, Baptiste et Florent. Peut-être d'abord parler de toi, Florent, parce que tu n'as pas eu l'occasion de nous dire ce que tu avais fait depuis le mois de juin et notamment depuis le début février. Alors ça ne fait qu'un mois et demi, mais est-ce que ton activité s'est accélérée autour du Vision Pro ces dernières semaines?
Alors écoute, ça pas en fait depuis juin je fais que du Vision Pro. J'avais une mission en cours cet été, mais du coup je passais mes soirées et week-ends sur le Vision Pro. Donc en fait chaque jour je faisais deux jours de travail, une journée en Vision Pro, une journée normale. C'était pas un été reposant. Et après, à partir de mi-septembre, j'ai fait que du Vision Pro. Malheureusement, je pourrais pas parler, vous pourrez pas essayer les applications que j'ai produites parce que tout simplement c'est confidentiel. Les clients veulent pas que j'en parle. Je peux vous dire par contre, donc j'en ai fait dans l'entertainment. J'ai eu une de mes applications, l'application de mon client qui a été qui était le jour J sur l'App Store. Donc c'est toujours une petite victoire de se dire bah tiens, ça y est, on y est.
Et celle-là, on peut savoir laquelle c'est ?
Non.
Ah. Il y a même pas ton nom dans les crédits ?
Il n'y a rien. Et ben, c'est comme ça. Hein. Moi, je respecte mes clients. D'accord.
C'est une appli dans quel domaine, ouais. Globalement, grossièrement ?
C'est dans le loisir, quoi.
D'accord.
Loisir numérique, après, je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas trop détailler.
Ça commence par quelle lettre ?
Et F.
Ça commence mais par ça reste D, entre ça nous, finit par Y. Non.
Et
je te le souhaite, mais...
Et du coup, même là, j'ai, en fait, je crois que toutes les applications grand public qu'on m'a demandé, c'était dans le loisir numérique. Pas spécialement d'outils ou quoi. Par contre, j'ai eu énormément de demandes d'applications internes dans différents domaines. Donc, comme je te disais, beaucoup de data visualisation, ouais. des tableaux de bord, des choses comme ça. Là, il y a vraiment une grosse demande. Dans le médical aussi, j'en ai eu. Et voilà. Après, en termes de technologie, j'ai eu du coup un peu de tout. Hein. J'ai eu donc ARKit et RealityKit. Bon, ben ça, ça revient. Hein. C'est comme la piscine, mais c'est toujours un peu difficile. Mmh. Finalement, l'expérience VisionOS, de pouvoir se dire tout ce que je contrôle avec les yeux et tout, c'est le fait de se dire je contrôle avec les yeux, je pince pour déplacer les éléments et tout ça. C'est vraiment une nouvelle expérience à créer et aussi éduquer les utilisateurs parce que, en fait, comme je disais en début d'émission, aujourd'hui, l'essentiel de mon activité, c'est de monter des prototypes. Je le fais en quelques jours pour aussi que mes clients s'acculturent au Vision Pro. Parce qu'ils ne voient pas tout le potentiel. Déjà, au début, tu avais un défaut dans le sens où on avait l'habitude de tout ce qui est Meta et compagnie. Et donc, on disait, ah bah oui, mais sur Meta, on essaye de faire le parallèle. Je dis, attends, c'est pas Meta. Va dans un lab, fais quelque chose, mais découvre, et après, on en rediscute. Là, aujourd'hui, c'est plus facile. J'arrive, je remets le Vision Pro sur la tête, et c'est bon, quoi. Et là, ils comprennent qu'on est dans un autre monde. Jusqu'à février, c'était assez compliqué. Et en fait, petit à petit, on s'éduque, et là, on fait un premier prototype, on voit ce qui se passe, et là, on découvre tout un potentiel. Mais dans tous les domaines, en fait, en 3D, c'est finalement pas si compliqué que ça de faire des choses assez sympas. Évidemment, j'ai testé l'application Decathlon, et c'est vrai que ce qui a été fait, c'est génial. Le fait de rentrer dans la tente, en fait, habituellement, quand tu rentres dans un modèle 3D comme ça, c'est pourri, parce qu'on cache la misère, et là, en fait, tu peux vraiment rentrer dans la tente en 3D de Decathlon, et c'est assez cool, et du coup, ça donne plein d'idées pour plein d'autres choses. Ouais.
Mais Florent, ça veut dire que depuis 9 mois, tu n'as plus fait une seule appli iPhone ?
Non, hormis celle de ma mission qui était en train de se terminer, non, j'ai fait que ça.
Mais ça veut dire que tu ne vas plus faire que ça dans les années qui viennent, là ?
Ben, pour l'instant, j'ai pas envie de changer, toi.
Ouais.
j'adore VisionOS et c'est l'expérience utilisateur ultime, en fait.
Ouais.
Est-ce que le
logiciel est dans ta tête.
Si je peux me permettre, c'est une compétence que tu valorises davantage, développée pour Vision Pro ou pour toi, tu factures le même tarif, entre guillemets, que pour développer sur iPhone ?
C'est difficile à estimer parce qu'en fait, je suis en croissance. Même sur iOS, ouais, régulièrement, mes tarifs augmentent de fait parce que je gagne en expérience sur tout l'ensemble de la technologie Apple.
Ouais.
Donc sur Swift, sur l'écosystème Apple, SwiftUI, etc., qui est commun en fait à pas mal de plateformes. En plus, je travaille aussi avec ce que je fais beaucoup. C'est que je conçois des outils de gestion de contenu pour mes clients, donc je fais maintenant on peut faire du SwiftUI avec macOS et ça marche pas mal, donc je fais du SwiftUI en macOS pour faire des belles interfaces qui permettent de gérer du contenu. Je fais des serveurs en Swift et câblés avec du VisionOS et c'est aussi l'ensemble que je vends à mes clients aussi.
Donc c'est bon, voilà. Pour le business,
et c'est hyper bon pour le business, ouais. et c'est vrai que le fait d'avoir un écosystème, ça marche super bien parce que du coup tu te fais de la croissance assez vite, et y compris sur serveur, et je pense que rien que ça mériterait une émission parce que c'est un truc de fou. Les serveurs Apple, c'est un truc de dingue. Et tu restes sur la même technologie, donc c'est hyper épanouissant.
Et tout ça pour un produit qui n'est pas disponible en France.
Oui.
Ouais. C'est là où ils ont déjà gagné. Parce que 66% des entreprises ont déjà investi ou veulent investir dans cette nouvelle plateforme, et les développeurs eux-mêmes sont conquis et à la limite ne veulent plus faire autre chose et gagnent encore mieux leur vie. C'est pas une boucle vertueuse, je sais pas comment on appelle ça, quoi. C'est une martingale.
Alléluia.
C'est un bon business. Parce que, en fait, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que Apple a fait un travail qu'il faut reconnaître pour rendre l'outil vraiment efficace. Et quand tu vends quelque chose qui est fait avec un outil efficace, tu passes moins de temps. Et du coup, tout le monde s'y retrouve. Parce que le prix du produit au final, enfin, le prix de la prestation finale est pas si élevé que ça. Si tu ramènes au temps passé.
Ouais.
Parce que certes, il y a un temps par jour qui est élevé, mais vu que tu vas 2, 3, 4 fois plus vite, c'est rentable pour tout le monde. En fait, pour moi, c'est rentable. Pour le client, c'est rentable. Et pour Apple, c'est très certainement rentable.
Ouais. Oui. Baptiste, toi, tu bosses exclusivement pour Decathlon ou tu fais du développement en externe aussi?
Non, je fais que chez Decathlon.
Que chez Decathlon. Donc, tu as peut-être d'autres projets dont tu peux pas parler.
Oui, en effet, mais moi j'ai un peu le même ressentiment que Florence, c'est-à-dire que moi je fais de la prospection aussi, mais en interne chez Decathlon, hein, on est beaucoup. Dans les équipes IT, on approche des 5000 et en termes de taille d'entreprise, on est 100 000, donc on est vraiment beaucoup et il y a beaucoup de projets différents. Donc là, actuellement, je suis vraiment dans mon rôle d'évangéliste où je pars avec ma petite sacoche Vision Pro et je vais faire essayer un peu à tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des sceptiques sur la nouvelle technologie, j'en aurais jamais besoin, etc. C'est cher, comment on peut mettre ça en magasin, c'est trop cher, c'est trop fragile. Et il y a plein de personnes qui, après l'essai, ont des nouvelles idées pour l'usage interne, de l'usage aussi pour les clients en magasin, par exemple. Et grâce à l'écosystème Apple, on arrive aussi à répondre à ce « c'est trop cher et en plus c'est disponible qu'aux US, donc comment je vais faire mettre ça dans mon magasin ?» Bah oui, mais si je te fais une appli Vision OS, bah je peux te faire une seule appli universelle qui est disponible sur iOS, iPadOS et Vision OS. Certes, l'environnement sera différent, tu ne seras pas en vue immersive si tu es sur iOS ou iPadOS, mais tu as la puissance d'AirKit derrière, donc si tu veux montrer une tente en magasin, voir les bonnes dimensions, etc., bah, si ton vendeur on l'équipe d'un iPhone ou d'un iPad, on peut le faire également et c'est à moindre coût, c'est maintenant et on n'a pas besoin d'attendre le Vision Pro. Si le Vision Pro devient disponible en Europe, on pourra te le fournir et ça sera la même expérience, la même formation, la même application. Donc c'est aussi très enrichissant sur ce côté-là en usage interne. Et c'est pour ça que voilà, et des idées, il y en a tous les jours, des marques Decathlon qui me font plein de demandes, des idées nouvelles, que ce soit dans purement l'expérience retail, mais aussi autour de l'entertainment du sport. Comment on peut mettre en avant, par exemple, une épreuve du Tour de France dans le Vision Pro avec notre équipe Decathlon AG2R. Et donc, ça touche pas que le milieu du retail, ça touche la conception de produits, ça touche l'entertainment autour du sport, ça touche la co-conception. Par exemple, si on veut montrer à un client en magasin un produit et qu'il n'existe pas encore ou qu'on souhaite avoir des feedbacks dessus avant même qu'il soit disponible, on pourrait le faire. Donc, c'est vraiment plein d'usages. En ce moment-là, c'est vraiment la rationalisation de... On a un super outil, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, quasiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait vraiment en termes d'expérience pour Decathlon? Qu'est-ce qui est intéressant de faire pour nos clients et pour nos collaborateurs en interne?
Alors, j'ai quelques infos à partager avec vous sur le Vision Pro. Je vous propose d'amorcer chacun des sujets. Et si vous avez envie de réagir ou d'apporter quelque chose, puisqu'on se voit, faites-moi un petit signe et je vous passerai la main. La première news, c'est que la version web de l'App Store pour le Vision Pro est désormais accessible sans Vision Pro. Alors ça paraît bête, mais ça change pas mal de choses, parce que on peut sur son Mac ou son iPhone aller voir cette App Store dédiée et donc découvrir les apps qui sont disponibles. Alors quand on clique sur les best, hein, les best apps, il y en a que 27, alors qu'Apple donnait un chiffre de 600, je crois, hein, le mois dernier. Est-ce que vous avez un chiffre global plus récent que le mien sur le nombre total d'apps dispo pour le Vision Pro? Non.
Vous êtes resté à 600. Non, ils communiquent pas dessus.
Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Bon, parmi les 27 meilleures apps, alors j'ai pas vu l'appli Decathlon, hein, faudra protester Baptiste. Elle devrait être dans cette liste. En tout cas, on trouve Word de Microsoft, on trouve l'appli IMAX, la NBA, DJ, l'appli pour faire du remix et se prendre pour un DJ, appli française hein, si je ne me trompe pas, Zoom, TikTok, Disney, tu l'évoquais tout à l'heure, Max, et puis des applis liées au ciel et à l'espace, dont Skyguide et Space Vision. Une appli un petit peu de chez nous quand même, qui est en préparation pour le Vision Pro, c'est VLC, l'appli de lecture vidéo multiformat. C'est le président de Videolan, Jean-Baptiste Kempf, qui confirme que l'appli est en préparation. Ça, c'est pas inintéressant.
Et c'est clair que là, non, mais c'est vrai que on attend beaucoup de nouvelles applications. Mais toi, déjà qu'il y a des acteurs comme VLC qui sont dans quelque chose d'assez générique, ça donne vraiment la dimension ordinateur à l'ordinateur spatial. Et ça, je trouve ça assez chouette, en fait. Parce que ça commence à devenir des outils que tu vas utiliser au quotidien et tu retranscris, en fait, tes usages. Et ça, c'est pas mal. Tout comme Word, Excel et tout ça. D'ailleurs, expérience assez géniale, c'est ce qu'a fait Apple pour Keynote. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait... Ouais. moi, j'utilise Keynote forcément pour quand je fais des conférences et ce genre de choses. Et tu veux toujours t'entraîner. Forcément, avant, tu sais, si tu as une salle de type grand écran ou salle de réunion, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire « Ok, je vais m'entraîner dans une salle de réunion. » Et là, pouf, tu es projeté dans une salle de réunion, comme s'il y avait des gens face de toi. Et tu as derrière toi la présentation. Devant toi, l'aperçu des slides qui viennent, bah, t'es complètement en immersion. Et idem pour le théâtre, sauf que t'es sur un écran plus grand, ce qui te permet, en fait, de t'entraîner par rapport au format à la taille réelle du format que t'auras, à l'usage, en fait. Et donc, t'es vraiment en condition réelle, c'est hyper bien pour s'entraîner et c'est hyper agréable.
Tu rejoins Florent Baptiste sur Keynote?
Oui. J'ai fait une presse Keynote, je présente le projet en interne plusieurs fois et j'utilise Keynote. Et tout à l'heure, je me suis entraîné dans le Steve Jobs Theater pour et c'est une expérience assez exceptionnelle, du coup, parce que ça permet vraiment d'avoir un ressenti de l'espace de la salle dans laquelle on va présenter par la suite. Et même les voix, quand on se met dans certains environnements, les voix avec les échos et tout sont ressorties dans les haut-parleurs du Vision Pro. Donc, tu as vraiment cette impression d'être dans la salle.
Incroyable, ouais, effectivement.
Ça veut dire qu'on va te voir à la présentation de la WWDC?
Malheureusement, c'est que dans les amphithéâtres internes de Decathlon, donc il n'y a pas de...
De toute façon, il ne nous le dirait pas. Il ne pourrait pas. On se souvient du suspense qui avait entouré la montée sur scène de l'équipe de Molotov à l'époque. On vous l'avait raconté ici dans un ancien épisode d'iWeek. Alors, on parlait du fait que le Vision Pro n'est disponible qu'aux US. On se demande tous quand il arrivera en France. Alors, on commence à avoir quelques indices sur l'ouverture à d'autres pays. Apple s'est engagé à ce que le masque arrive ailleurs qu'aux US dans le courant de l'année 2024. On ne sait pas encore où. Ce qui est sûr, c'est que des offres d'emploi de briefing experience spécialiste pour le Vision Pro sont ouvertes en Australie, en Chine et au Japon. Elles avaient déjà été proposées au Royaume-Uni à la fin de l'année dernière. et donc potentiellement Australie, Chine, Japon, UK pourraient être quatre des premiers pays où le Vision Pro arrivera dans les prochaines semaines peut-être. On parle d'avril-mai potentiellement, en tout cas peut-être avant la WWDC. En fait, il y aurait 9 pays après les US concernés à relativement court terme. Parmi ces 9 pays, on trouve la France, mais aussi l'Allemagne, Singapour, le Canada, la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan. Voilà les pays qui pourraient profiter du Vision Pro avant la fin de l'année. Des nouvelles qui concernent vraiment les développeurs. Alors, je vous les livre, je ne sais pas si elles vous parlent. Le pilotage via les gestes du Vision Pro, désormais accessible aux développeurs qui utilisent WebXR, une technologie qui est désactivée par défaut, mais qui peut être activée dans Safari sur le Vision Pro. Est-ce que ça parle aux développeurs que vous êtes ?
Je l'ai testé. J'ai testé un peu ça. C'est toujours aussi pourri. En fait, c'est un simili 3D. Toi, c'est du 3D web, mais ça permet une expérience de réalité virtuelle dans Safari. Franchement, la techno est pas dingue de base, quoi. Donc ça reste assez carré. Pour l'instant, j'ai eu que des démos assez, pas terribles. Mais oui, dans Safari, Apple travaille justement à se mettre à niveau par rapport à ça, par rapport aux autres constructeurs. Mais de toute façon, j'ai jamais vu aucun constructeur faire un truc vraiment qui fasse un effet waouh, quoi. La 3D dans le web, pour l'instant, c'est pas non plus dingue.
Ouais.
Mais ça existe, quoi. Après, peut-être que sur des usages comme la vidéo ou des choses comme ça, ça peut être sympa d'avoir des vidéos, justement, des vidéos, tu vois, dans une sphère. Comme typiquement YouTube 180 ou ce genre de choses, mais ouais. Après t'auras le problème d'avoir de la qualité, enfin t'as 12 000 problèmes qui viennent, quoi.
Ouais. Fred, ça fait longtemps que tu encore parlé, démarche. J'ai l'impression.
Ouais, je voulais avoir un petit échange parce que sur la date de sortie, c'est important. Ellie dit souvent qu'Apple ne sort pas à juste titre de produits en septembre. Septembre, c'est l'iPhone, c'est les opérateurs et c'est le produit phare qui fait 70% des revenus. Donc, si on pense bien, après septembre, octobre, novembre, ça fait quand même tard pour ouvrir les pays quand même. Donc, il y a quand même beaucoup d'indices qui indiquent que ça serait quand même avant l'été. Parce qu'il n'y a pas tant de fenêtres que ça. Après, il y a la WWDC. Bon, on peut remixer avec ça. Pourquoi pas? Parce que à la dernière WWDC, ça a été présenté. Mais je vois mal Apple ouvrir, attendre 8, 9, voire 10 mois pour ouvrir d'autres pays. Donc, si on a de la chance, avant cet été ou à la WWDC, je pense que ça serait raisonnable de penser qu'on aurait une ouverture et peut-être en France.
Je suis d'accord.
Intéressant.
Merci, Ellie.
Après. Il y a encore la fenêtre du mois d'octobre, non ?
Non, 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 octobre, c'est non. C'est une période grand public. Et puis, on aura les processeurs M4, dont on va peut-être parler, ou les processeurs en 2 nanomètres, et toutes ces choses-là qui vont arriver un jour. Il y a des périodes où on fait pas dans le haut de gamme.
Il va falloir rajouter des mois dans l'année, hein.
Et puis, il ne faut pas oublier que les iPhones, c'est maintenant des téléphones, des smartphones qui se vendent entre 1000 et 1500 euros, que c'est des gros investissements, qu'après, il y a les fêtes de Noël où les gens dépensent aussi pas mal d'argent. Donc, placer un produit en France, en l'occurrence ou en Angleterre, hein, à 4 et 4500 euros sur les options, parce qu'il y a quand même des petites options pour les lentilles, etc. Ça, c'est franchement pas raisonnable. Donc, je pense que si Apple a la capacité de les produire, c'est surtout les écrans qui sont problématiques, avant en juillet, je pense qu'ils le feront, ça paraît raisonnable. C'est la meilleure fenêtre de tir.
Oui, puis
pour
à 4000 euros, il n'y a pas vraiment besoin d'une période de lancement particulière parce que ceux qui peuvent l'acheter l'achèteront quel que soit le mois où ça sort. Par contre, les produits grand public, c'est destiné à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de la WWDC, on démarre l'an 1 de l'IA chez Apple. Et ça, c'est très, 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 très important pour eux.
Ouais.
Donc, ils ne vont pas tout mélanger. Donc,
Mais ça veut dire que potentiellement, il faudrait une annonce assez vite parce qu'on est déjà le 21 mars. Et la dub-dub, c'est dans 2 mois, quoi.
Hein,
un poil plus.
Et moi, je mettrais un bémol dans la mesure où ça va dépendre de la façon et de la vitesse à laquelle Apple a pu signer des accords de distribution des contenus qui vont bien à l'intérieur, c'est-à-dire les films, les contenus audio. Ils ont sûrement commencé à travailler en amont hein, du lancement, mais tout de même, il y a beaucoup de, en Europe en particulier, beaucoup d'organismes de redistribution des droits et des droits voisins avec qui il faut signer également, alors que c'est plutôt plus concentré aux États-Unis.
Ouais, c'est juste. Les ayants droit, c'est
compliqué. Et au fait, un de mes camarades développeurs, vous n'avez pas des rumeurs sur MyCanal, sur Vision OS? Parce que ça, c'est une appli qui est attendue. Hein. C'est le Disney français, quoi.
Non, bah, j'ai l'impression que Florent ne peut pas parler.
Non, moi, je ne fais rien.
L'application MyCanal est disponible déjà.
Je t'embête. Elle est déjà dispo?
Elle est dispo, mais pour ceux qui ont un compte US.
Élie, tu vas devoir sortir ta carte bleue. Hein.
Oui. Ouais. Non, mais désolé, ça tombe, moi j'ai un compte US. Non, mais moi j'ai un compte US, hein, ne vous inquiétez pas.
Bon, Fred Crassa, puisqu'on était avec toi, on va passer à la troisième partie de cette spéciale Vision Pro. Tu nous as proposé de nous faire entrer dans le secret des, notamment des processeurs, des deux processeurs qui sont à l'intérieur du Vision Pro. C'est vrai que quand on enlève tout ce qui est magnétique, tout ce qui permet d'éviter que la lumière n'entre à l'intérieur, tu me le confirmes, Baptiste et Florent, il ne fait que quelques centimètres d'épaisseur, le Vision Pro. Hein.
Ouais.
Je sens que
ouais,
tu vas nous faire un démontage.
Allez.
Voilà, hop.
On va démonter. Et voilà. Hop là. Ouais. Donc là, c'est vraiment pas gros. Hein.
Bah oui, donc ça tient dans le... Ouais, dans le... Effectivement, le... c'est à peine plus long qu'un de tes ongles hein, en largeur. Donc c'est vraiment très très fin. Alors, à l'intérieur du Vision Pro, Fred, iFixit l'a parfaitement mis en évidence en le désossant. Hein, la concentration de technologie est aussi impressionnante que le design interne. Et puis, il y a ces deux processeurs alors, dont on pensait... accessoirement qu'ils auraient pu évoluer depuis l'annonce du Vision Pro début juin 2023. Ça n'a pas été le cas. Mais quand même, avec ces quelques semaines de recul depuis la sortie, on sait maintenant assez précisément comment le Vision Pro fonctionne de manière interne hein, et comment il se repose sur ces deux puces pour offrir du grand spectacle.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que moi j'en avais parlé un petit peu avant la sortie du Vision Pro. Avoir la capacité de faire du temps réel et de gérer autant de capteurs et de flux, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de caméras, il y a beaucoup de flux à gérer, et surtout en temps réel, c'était pas facile à faire avec un processeur classique. Donc il y avait deux possibilités, soit créer un nouveau processeur, soit faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire créer un coprocesseur, réutiliser un M2, un M3. Bon là, en l'occurrence, ça a été un M2 parce que même s'il est sorti le 8 juillet 2022, il date un petit peu. Hein, c'est vrai qu'il livre pas le M3. Néanmoins, je pense qu'il fallait, Florent et Baptiste le savent, il faut une certaine stabilité pour débugger. On peut pas changer comme ça de hardware et le M3 change beaucoup de choses au niveau GPU quand même. Donc, ça aurait été un peu compliqué. Donc, ils ont pas pris de risque, surtout que la feuille de route, elle était dure, je pense, à tenir. Hein. Et donc, ils ont sorti effectivement un R1 qui est spécialisé dans le real time. Donc, ça veut dire traiter les flux en temps réel, c'est pas anodin. Ça veut dire que de toute façon, le processeur, il doit délivrer, en l'occurrence, ce que vous voyez, les flux qui sont captés, il faut que ça sorte avec 12 millisecondes sur vos écrans. Et quoi qu'il en coûte, donc, quelle que soit la configuration, quel que soit le flux, quel que soit si vous bougez vite ou etc., toutes les 12 millisecondes, ça sort. Vous voyez, on n'a pas ce genre de contraintes avec les processeurs actuels. Et donc, le R1 est une vraie innovation parce que contrairement aux autres casques, il a un nombre de capteurs qui est colossal. Je ne sais pas si les
T'oublies
gens sont réalisés.
Pas que j'étais visuel,
parce
hein, Fred. Hein.
Oui, mais je ne les vois pas, moi.
Tu les commandes,
les visuels.
Hein. Tu me demandes D'accord. quand tu les veux non, et je te les envoie.
Moi, je veux bien que tu montres effectivement. Alors là, juste pour les écrans, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écrans-là, ils sont conçus comme des microprocesseurs. Vous voyez, c'est pas du tout la technologie des écrans classiques. C'est-à-dire que c'est TSMC qui grave en fait. C'est comme une puce, en fait. Ils ont gravé le support initial et Sony va poser dessus sa couche, sa structure micro OLED. Donc, c'est pas du tout une technologie, vous voyez, qui est comme les télés. Donc, c'est très, 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 très dense. Et c'est ce qui explique la qualité que Florent et Baptiste disaient, qui est hors norme. Hors norme par rapport à tout ce qui existe. Donc, ça, c'était. On retrouve TSMC, ce que je savais pas. D'ailleurs, j'ai appris ça en travaillant le sujet, TSMC dessus. Après, je sais pas si tu as d'autres. Les autres.
Toutes dans l'ordre. Donc, je te suis si tu veux.
Tout à fait. Le deuxième, on voit qu'on dépasse la 4K. Alors, effectivement, ces écrans, ils sont présentés devant les yeux. Donc, il y a une profondeur, enfin, une largeur. Hein, le fauve, il y a une largeur, etc. Mais quand on regarde la définition, iFixit a évalué ça, vous voyez, on a à peu près 40% de plus que deux écrans 4K classiques. Donc, c'est vraiment colossal. Ouais. C'est énorme. Et ça veut dire que pour les microprocesseurs, il faut les gérer, encore une fois, c'est-à-dire il faut capter les images, il faut les afficher comme ça pour proposer 23 millions de pixels. Et moi j'ai un casque Meta, vous le savez, il va falloir remettre en forme les choses, puisque quand vous présentez votre main, tous ceux qui l'ont testé, moi je ne l'ai pas testé mais je l'ai vu, ils ne sentent pas que quand ils rapprochent leur main en face, et c'est très, très important, ils ne sentent pas les mains déformées, il n'y a pas de déformation comme on a avec le Quest 3. Et donc, tout ce travail est fait et avec une définition qui est hors norme. Donc ça, c'est vraiment le top. Enfin, personne ne fait ça, quoi. Franchement, personne ne fait ça actuellement. Ouais.
Alors, les technos qui sont embarqués dans le casque, on se souvient de cette présentation lors de la keynote de la WDC. Tu peux nous rappeler, Fred, toutes les caméras et tous les capteurs qui sont sur la bordure du casque?
Ouais, alors vous avez effectivement en bleu, je vous ai mis en bleu, c'est les deux caméras qui sont les caméras de face et qui sont les caméras les plus importantes puisque c'est elles qui vont être restituées dans l'écran. Néanmoins, vous avez aussi des caméras de côté, ils surveillent ce qu'il y a sur le côté. Et ce que les gens savent pas, c'est que 12 millisecondes, c'est un petit peu la latence que vous avez, c'est souvent en haut et en bas. Et vous avez en fait pratiquement 0 milliseconde quand vous faites droite-gauche, en fait. Parce que vous avez les caméras de côté qui filment et il a déjà les images avant même que vous bougiez à droite à gauche, vous voyez. Donc, c'est un truc qui est de malade. Et puis, vous avez des caméras qui filment en bas. Ils auraient pu mettre deux caméras pour le bas, mais en fait, ils en ont mis quatre. Ce qui explique, je pense que Florent et Baptiste le savent, ils l'ont testé, ce qui explique que la gestuelle est aussi précise, même les mains posées sur les cuisses, apparemment, ça réagit au quart de tour. Et je suppose que c'est parce qu'il y a ces deux caméras qui permettent qu'on ait les mains à côté, un peu plus haut. En fait, dans tous les cas de figure, il y arrive, quoi. Donc, c'est énormément de caméras et c'est tous ces flux-là, il va falloir les gérer en temps réel. Et vous imaginez bien que quand vous avez un Mac avec une puce M2 et M3 qui a une seule webcam, elle n'a pas à gérer 8 caméras en temps réel comme ça. Voilà.
Mais oui.
Après, il y a des lidars. Ça, c'est hyper important, les lidars. Vous avez pu tous voir. Vous avez aussi à l'intérieur toutes les caméras de suivi des yeux qui sont hyper efficaces, qui sont super importants. Comme disait Florent, je crois, tout à l'heure, hein, on regarde l'objet, l'objet qu'on veut sélectionner et on pince avec les doigts. Ça réagit c'est magique, quoi. C'est au quart de tour. Donc, il y a un ajustement. C'est toi qui disais, Benjamin, qu'il y a un ajustement des yeux au départ. Un petit peu comme FaceTime, ouais. Il faut bien calibrer ça. Et ça, je pense qu'ils sont à la pointe. Je crois qu'il y a pratiquement personne qui a un ajustement aussi précis. Il y en a qui le font avec une caméra. Eux, ils le font avec deux caméras. Ce qui est, bon, là, on en a quatre, du coup, en total. Ouais. Ça aussi, il faut le traiter. Et puis après, il y a le micro, ça aussi qui est important. Vous voyez, il y a des micros qui sont en bas. Il y en a trois d'un côté, un autre six, plus le latéral aussi. Donc, c'est, c'est une débauche, hein. Je pense qu'ils ont vraiment vu grand, très grand. Ouais, ouais. Et je pense qu'ils vont avoir des optimisations. Tout ce qu'ils vont tester va peut-être permettre, hein, et ça va peut-être participer à la réduction du coût. Peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'avec de l'intelligence artificielle, etc., on va pouvoir réduire le nombre de caméras, de micros, des choses comme ça. C'est pas impossible en mettant un peu plus d'intelligence artificielle là-dedans.
Alors, les deux puces, ça a été une des surprises au moment de l'annonce. Le fait qu'il y ait une puce M2, certes, qui était la puce au moment de l'annonce, mais cette puce R1 dont on n'avait jamais entendu parler, qui a été créée pour le Vision Pro, a priori.
Ouais, moi je pensais qu'ils allaient créer une nouvelle puce qui combinerait les deux pour des questions d'économie d'énergie et puis pour que ça soit plus efficace, parce que vous imaginez bien que la M2 et la R1, elles communiquent, vous voyez cette carte mère avec la nappe qui fait le pourtour, hein, c'est une carte mère souple, hein, parce que comme l'a montré Baptiste, vous avez vu, c'est une courbe, il n'est pas plat, hein, du tout le Vision Pro. Donc c'est l'air de rien aussi, ça c'est une petite prouesse, hein, technique d'arriver à faire quelque chose de fiable avec autant de composants, ventilés, les écrans, enfin c'est vraiment une merveille. Et effectivement le M2 c'est un processeur sûrement qui a été c'est un processeur qui a été conçu de longue date, il y a probablement eu un R0 et là c'est le R1 qui est un petit peu finalisé. Il a dû être fait il y a au moins 2 ans pour que les équipes puissent tester tout ça. Et c'est du 5 nano. On est en 5 nanomètres. Et donc son boulot, comme je vous l'ai dit, on va passer plus loin. On a eu des specs quand même. Les specs officiels ont sorti. Et 12 millisecondes, donc c'est lui qui participe effectivement au fait qu'il garantit 12 millisecondes. Donc ça, c'est très important. Et comme l'a dit Florent, je crois, vous avez... Et ça c'est quelque chose qu'ils ont réglé. Ils ont réglé par rapport aux autres. Il n'y a pas de cinétose. On n'est pas malade. On le saurait maintenant. Si vraiment les gens étaient malades parce qu'ils l'utilisent, etc., il peut toujours y avoir des cas particuliers. Mais en gros, ils ont réglé. Et ça, c'était hyper important. On ne pouvait pas être malade avec un casque Apple. Je pense que dans un projet, on peut pas régler tous les problèmes. On a une vie, mais on a des priorités. Et là, je pense que les équipes Apple voulaient absolument coûte que coûte régler ce problème de cinétose. Voilà. Et le deuxième info qui a été un peu particulier, d'ailleurs, ça fait l'objet d'investigation pour moi, c'était qu'il nous indiquait qu'il y avait 256 gigaoctets secondes d'accès à la mémoire. Et ça, c'est un petit peu bizarre quand même. Et c'est les specs d'Apple, hein. Je dis 256 gigaoctets d'accès à la mémoire. Le M1 était à 68 gigas. Le M2 et le M3 sont à 100 gigas, puisqu'ils ont leur propre mémoire. Comment une puce R1 peut avoir 256, alors que les 16 gigas, vous savez, de mémoire unifiée qu'on a sur les M2, elles sont à 100. Donc c'est particulier, puisqu'il ne peut pas faire... vous savez que la mémoire, on va le voir sur le slide suivant, parce que du coup, iFixit nous a aidés, ils ont démonté ça. Donc je vous ai montré là, ils gèrent tout ça. Vous voyez, 256 gigas, c'est un indice que peut-être... Effectivement, le R1, il a sa propre mémoire parce qu'il peut pas accéder plus vite que le M2 à la mémoire du M2 qui est collée à elle. Vous voyez, elle est de l'autre côté de la carte mère, elle est collée à elle et puis la mémoire elle peut pas être accédée par deux processeurs différents. Donc ça veut dire que le R1 passe par le M2 pour accéder à la RAM et il aurait un accès plus rapide que le propre M2 qui est collé. Donc il y avait quelque chose qui allait pas. Et alors, je comprenais qu'il devait avoir un accès très rapide à la mémoire, parce que quand vous faites du temps réel, le goulot d'étranglement, et les développeurs le savent aussi un petit peu, c'est la mémoire. Donc, j'ai zoomé un petit peu sur la puce qui était photographiée sur iFixit, qu'il a démontée. Et alors, cette puce, elle est un petit peu bizarre, parce que vous voyez, elle a des traits partout. Elle a des traits partout, c'est-à-dire qu'en fait, elle est constituée, non, c'est pas monolithique, elle est constituée de 11 éléments. Alors, vous voyez, là où il y a la pomme, vous avez un gros carré. Et ça, c'est sûrement la puce principale. Les rectangles qu'il y a sur le côté, ça pourrait être des interfaces, parce qu'il va falloir connecter tous ces capteurs, ces écrans, et ça demande effectivement des interfaces de conversion analogique, numérique. Et puis, les deux rectangles que vous voyez au-dessus de la pomme, il y en a un en haut et un en bas. Ce que j'ai pensé, c'est que c'était sa mémoire propre, sa mémoire pour de stockage, puisqu'il va falloir reprendre tous ces flux et travailler dessus en temps réel. Et donc, en fait, les 256 gigas, c'est une mémoire locale qui est probablement de 500, 1 giga, on ne sait pas trop, ils ne donnent pas les specs. Et quand je vous montre ça, vous voyez, les 16 gigas du M2, il est collé ici, il y a deux puces. Et donc, la R1, quand on regarde la carte mère, il n'y a pas d'autre puce mémoire à côté du R1. Donc, ce qui se passe, c'est que Apple, pour ce besoin-là, ils ont utilisé un mémoire de... Alors déjà, ils ont utilisé ce qu'on appelle les chiplets, c'est-à-dire sur un même support, puisque vous voyez, c'est une seule plaque. En fait, ils ont réussi à coller des puces individuelles et sur le même support et très, très proche. Et cette technologie, on la connaît, mais Apple ne l'avait pour l'instant jamais utilisée. Et il utilise aussi un nouveau type de mémoire parce qu'arriver à faire une mémoire qui a 256 gigas d'accès comme ça sur une si petite surface, c'est-à-dire que le fournisseur qui est le coréen SK Hynix, il a proposé un nouveau type de mémoire à Apple qu'il a validé. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que peut-être les futures puces d'Apple, peut-être pour les futurs iPhone ou les futurs Mac, va pouvoir évoluer vers ce type de puces, de multipuces, de chiplets qu'on va combiner sur un même support. Et ça c'est ce que tous les électroniciens, les micro-électroniciens poussent depuis des années, mais c'est pas facile à faire. Et on voit qu'Apple a réussi à le faire sur son R1. Et donc ça, c'est une petite nouvelle. Voilà. C'est
bravo. Super, Fred.
Super.
Merci pour cette découverte des entrailles du Vision Pro. Florent, est-ce que tu as appris quelque chose, Baptiste aussi?
Ouais. C'est fou. En fait, cette histoire de mémoire, c'est un truc de fou furieux.
Ouais.
Un débit pareil, c'est hallucinant. Moi, ça me fait penser aussi à une autre anecdote quand le M1 est sorti, en fait, quand on a découvert qu'on pouvait stocker en mémoire. Jusqu'à 160 gigas de textures 3D compressées. Et toi, c'est plein de trucs que fait Apple comme ça, un peu en douce. Et tu dis waouh les mecs. Et en fait, on se dit à chaque fois, on découvre un nouveau truc. Là, c'est la vitesse de la mémoire. J'ose même pas imaginer ce que demain on aura quand on va découvrir les verrous qui vont sauter par rapport à l'intelligence artificielle, etc. quoi. Et c'est toujours de bonnes surprises.
Et ça veut dire aussi que ce traitement de flux énorme, dense, avec des très hautes définitions, ne gêne et ne ralentit pas le M2. Le M2, il est tranquille, quoi. Tout ça, c'est fait de façon hyper... Je veux dire, la puce R1 garantit qu'elle va débarquer un flux parce que les écrans, ils ne sont pas connectés au R1. Hein. Les écrans sont connectés au M2 qui a, je vous rappelle, les displays blocs, ce qui est utilisé d'ailleurs pour afficher deux écrans 4K. Hein. Et donc, c'est lui qui balance ça sur ça. Et en fait, le M2, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les flux du R1 et il va mettre l'interface de Vision OS, vos fenêtres et tout ça. Mais si vous voulez, quel que soit... Il n'est pas du tout gêné. C'est ça qui est assez beau, c'est très modulaire et peut-être que ça va être aussi assez simple pour Apple de proposer le M3 avec le R1 ou R2 aussi dans l'avenir quoi. Et je vous rappelle que le M3 il a du ray tracing au hardware qui est quand même peut-être utile pour la gestion de la lumière et tout ça. Déjà que c'est super beau, j'imagine même pas. Donc ça va libérer encore du temps parce qu'en hardware, on a vu sur la M3, ça libère, les applications sont beaucoup plus rapides parce qu'actuellement, le ray tracing est fait en software. Ça va faire du mesh shading, c'est-à-dire qu'on va faire des objets beaucoup plus massifs, beaucoup plus complexes sans que ça prenne le temps. Et puis, ça fait l'upscaling aussi. Et ça peut être intéressant aussi, l'upscaling au hardware. Voilà.
Baptiste à la banane. T'écouter, Fred.
Ouais, moi j'ai appris plein de choses. J'avais pas pris forcément le temps de me pencher sur le hardware, donc on voit que c'est très cool et c'est surtout du hardware qui est prêt depuis plusieurs années. Donc j'imagine à peine ce qu'ils sont en train de nous concocter à l'heure actuelle. Et le temps des 12 millisecondes, là, je pense que c'est un des socles aussi de la réussite, la future réussite du produit. C'est toutes les personnes qui avaient un peu d'appréhension parce qu'ils avaient testé d'autres casques qui les rendaient systématiquement malades. Ouais. Je leur disais, t'inquiète, ça va pas arriver. Et c'était le cas. Ils étaient pas malades. Ils avaient vraiment ce sentiment en temps réel. Et c'est la clé d'un bon casque de réalité mixte comme ça.
Là-dessus sur sur l'effet, pour même si t'es pas malade, en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fasciné, c'est que je l'ai utilisé, toi, admettons, généralement, tu fais deux sessions de 4 heures avec l'appareil, et tu l'enlèves, et t'as pas cet effet de sortie de cinéma, toi. Quand tu sors du cinéma, t'es complètement ébloui, t'es un peu sonné, et là, en fait, tu le prends, bon, tu le poses, t'es un peu fatigué, mais t'es pas sonné, quoi. T'es pas abasourdi, tu peux faire une conversation normale derrière. Alors qu'aujourd'hui, moi, si je prends un MetaQuest plus de 30 minutes, il me faut un peu de temps, tu vois, pour revenir sur Terre, quoi. Et je trouve que Apple a vraiment bien géré tout ça. Et voilà,
moi, j'ai
je vais plusieurs... ça pour ceux qui sont pas malades.
j'ai eu plusieurs expériences aussi où les gens manipulaient les modèles 3D de Decathlon et les positionnaient à certains endroits de la pièce. Et une fois qu'ils avaient terminé l'expérience, ils reposaient le masque et s'attendaient à voir les objets encore présents.
Ouais, ouais.
Et pas du mal. Coup, c'est, à chaque fois, c'est un sentiment assez... C'est là qu'on voit le degré de réalisme, parce que les gens, ils se disent « Ah bah tiens, la tente, elle est plus là. » Bah oui, la tente, elle est plus là, t'as retiré le Vision Pro. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a tellement pas de distinction, à part ce sentiment un peu de certaines personnes qui ont le poids ou la distribution du poids est un peu gênante pour eux. Il y a pas ce sentiment de « je retire ou je suis dans un casque ». Donc c'est ça qui va faire aussi la clé de la réussite de VisionOS.
Merci les amis, merci d'avoir été au rendez-vous de cet épisode spécial qu'on voulait consacrer au Vision Pro un mois et demi après sa sortie aux US, avant son arrivée en France. Et alors qu'on parlait, Apple a sorti des mises à jour, alors mineures certes, mais mises à jour quand même, notamment la version 1.1.1 de Vision OS. Mais si vous lancez la mise à jour sur vos devices, vous trouverez aussi notamment les versions 17.4.1 d'iOS et d'iPad OS, également une 16.7.7 pour ceux qui ne sont pas encore passés aux versions 17. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple. C'était l'épisode 178. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à iWeek Express, notre podcast compagnon, podcast événementiel, podcast imprévisible, dispo sur toutes les plateformes, aussi gratuit. On compte sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis sur Apple Podcast. Et puis bien sûr, patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Pas de bonus cette semaine, on a été un peu court en temps, mais le bonus sera très probablement de retour la semaine prochaine. Merci à nos deux invités qu'on espère retrouver très vite dans iWeek. Merci Frédéric Crassa, trop chouette de te retrouver.
Ouais, heureux, je suis vraiment ravi, merci pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous.
Et bien, pas de plaisir partagé, et on a à nouveau appris beaucoup de choses grâce à toi. Florent Morin, c'était très chouette de te revoir, et tu sais que t'es comme à la maison ici. Hein.
Ah ben, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, et toujours un très très bon moment.
Eh ben merci d'avoir été là, puis on te souhaite de très beaux projets autour du Vision Pro, et dès que tu pourras nous en parler, tu reviens quand tu veux. Hein.
Ah mais carrément, sachant que si vous voulez m'entendre parler et me voir en vrai, je serai aussi pour une conférence sur VisionOS à Toulouse pour le Meetup Swift de Toulouse le 25 avril, c'est un jeudi. Et également, si vous voulez vous former au développement, prochainement, Maxime Brito de Purple Giraffe vous partagera une formation qu'on a conçue ensemble pour apprendre à développer sur VisionOS.
Ah ça, c'est vachement bien. On peut s'inscrire.
Ouais, tu t'inscris sur Purple Giraffe et normalement, tu devrais avoir accès dès la semaine prochaine.
Très très bien. Ah bah écoute alors. Eh bah écoute, t'as déjà gagné un inscrit. Merci à tous les deux, Frédéric et Florent, et puis merci à vous les membres de la team. Baptiste, c'était un plaisir que tu sois de retour. Je sais que tu as encore un agenda un peu chargé. À très vite dans iWeek, c'était un vrai plaisir de t'avoir à nouveau.
Merci beaucoup, plaisir d'être de retour et j'espère être plus régulier à partir de maintenant.
Écoute, c'est que pour des bonnes nouvelles, donc on te souhaite encore beaucoup de succès. Elia Beatball, pareil, hein, très chouette de te retrouver. À très vite pour la suite.
Mais oui, en plus j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut que j'attende vraiment le Vision Pro 2. Parce qu'il va faire tellement de nouvelles choses avec les nouveaux processeurs et tout ça. Mais ça va être dur.
Ne fais pas comme Gilles avec son MacBook Pro, tu l'achèteras jamais sinon. Hein, mon Gilou.
Non, mais je l'ai acheté le MacBook Pro, moi.
Et Gilles, alors, tu l'as reçu ton MacBook Pro ou pas, finalement?
Ah, mais étant donné que je ne l'ai pas commandé, non. Je crois
une... Ah, bah non. Je croyais
que tu avais sauté le pas. Une erreur d'aiguillage de chez UPS. Ils sont apparemment aux États-Unis assez... coutumier enfin, il y a un gars qui a piqué dans les dépôts, il aurait pu se tromper. Mais non, pas de chance.
Mais attends, t'as commandé un Mac qui n'arrive pas ?
Non, je ne l'ai pas commandé, mais je dis que éventuellement quelqu'un de chez UPS puisse se tromper et m'envoyer un Mac que je n'avais pas commandé, puisque il y a un gars qui en a pris pour 3 millions.
Alors là, c'est fort.
Tu sais, t'as plus de chances de gagner à l'euro million, justement, je pense. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là, tous les cinq, c'était un plaisir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, Threads, Blue Sky, Mastodon et toujours sur X, ex-Twitter, en cherchant iWeek News ou iWeek.news et partout le hashtag iWeekLSA pour qu'on localise et pour qu'on identifie vos messages. À très vite pour la suite, à tout moment avec iWeek Express, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'iWeek, la semaine Apple. Salut à tous, bye bye.
Ciao.
Bye bye.